Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, retour à Busset. L'éco-hameau de Busset, presque 5 ans après notre première visite. Alors, peut-être une première constatation de ces choses dont on parle pas ou peu, finalement. Dans cette vaste prairie dans laquelle des maisons se sont construites, on s'aperçoit qu'il y a des chemins qui se sont tracés au fil des pas, des petits chemins à travers l'herbe. On s'aperçoit que les arbres ont poussé énormément et que ça modifie complètement le paysage. Et puis, bien sûr, il y a les maisons. Les maisons que vous étiez les uns et les autres en train de construire ou de terminer, certains les commençaient. Il y en a d'autres qui sont apparues depuis, qui sont pas nécessairement celles qui étaient imaginées ou attendues au début. Le début, Alain d'Orange, c'était une petite annonce, un site de rencontre, mais des rencontres d'un genre particulier. Collectif cherche collectif, ou alors individu cherche collectif. Il s'agissait de créer un éco-hameau sans avoir un groupe de départ, mais avec ce désir-là. Et de fait, voilà, quand on est venu il y a 5 ans, on se disait, ben voilà, ça a marché, la petite annonce a marché. Il y a des gens qui sont venus, qui ont répondu à l'annonce et qui sont restés. Et nous revoilà 5 ans plus tard, et ça fait plaisir de revoir les mêmes visages, pratiquement. Vous êtes restés, les uns et les autres, la plupart, en tout cas. Et donc, la question que je me pose et que je vous pose, c'est comment est-ce qu'un désir comme ça, qui est au départ nécessairement assez fantasmatique, comment est-ce que ça s'inscrit dans le temps? Comment est-ce que on vit avec ça au jour le jour? Comment est-ce que l'aventure se transforme en quotidien? Et est-ce que dans cette transformation, il y a une perte? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qu'on gagne? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Christophe?
Non, ça fait beaucoup de questions parce que oui, on perd forcément des choses parce qu'au début, on ne se connaissait pas les uns les autres, on n'était pas une famille, on n'était pas des amis. Donc on était vraiment dans la découverte des uns des autres, des caractères des uns des autres. Et donc il y avait une impression de nouveauté extraordinaire. Et petit à petit, cette nouveauté, elle s'est estompée. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'énergie se maintienne? Et en fait, c'est l'approfondissement qui est intéressant. Parce que dans cet approfondissement, on peut maintenant, entre guillemets, excusez, c'est pas le mot le plus précis, mais comprendre les fonctionnements des uns et des autres et pas s'énerver pour un rien ou pour un autre. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de choses fondamentalement en opposition avec nous-mêmes. On est dans une confiance mutuelle maintenant. Et cette confiance, elle fait que oui, il y a des énervements passagers, mais ils ont pas la même ampleur émotionnelle qu'au début. Au début, tout était un peu, enfin pour moi, je parle pour moi hein, bien entendu, hein, mais tout était très explosif quoi. La découverte, hein, c'était quand même assez fantastique. Et maintenant, il faut construire ce long chemin, ce petit chemin qui se trace dans les prairies. Et ben c'est ça qu'on est en train de vivre, et c'est une nouvelle étape pour moi en tout cas. Et je pense qu'elle est chouette parce que cette confiance là, elle nous apporte beaucoup.
C'est intéressant ce mot de confiance, Alain. Lors de notre première rencontre, vous aviez beaucoup insisté sur la nécessité justement que cette confiance existe entre les uns et les autres. Vous disiez, c'est ça qui rend possible les difficultés, les frictions.
L'idée, c'est qu'effectivement, on pourrait être tenté, quand on constitue ce genre de groupe, d'essayer d'édicter des règles pour répondre aux difficultés qui pourraient se présenter. Le problème, c'est que la réalité a une richesse d'invention pour les difficultés que l'on n'imagine pas, et qu'en réalité, plutôt que de perdre son temps à essayer d'imaginer ce qui pourrait arriver, le mieux est de faire que, quoi qu'il arrive, disons, on puisse se retrouver face à cette difficulté avec l'envie, tous, de la surmonter. Et c'est à ce moment-là que ce que dit Christophe est important, c'est-à-dire que si on a confiance fondamentalement les uns dans les autres, on est sûr que s'il y a une volonté, il y a une solution. quel que soit le genre de difficulté, et que c'est pas la peine de perdre son temps à essayer d'élaborer des règles, de prévoir tout ce qui pourrait se présenter et tout ça. La nature a horreur de ce genre de choses et elle est capable d'inventer des difficultés qu'on n'imagine même pas, quoi.
Oui, mais justement, cette confiance, du coup, comment est-ce qu'elle se construit ?
Je pense qu'elle se constitue au fil des jours, à travers quand même des contacts fréquents entre nous, dans des activités communes qui permettent à la fois de savoir ce que l'on peut demander aux autres, ce qu'il faut surtout pas leur demander parce que là, ils pourront pas le donner. Moyennant cela, on arrive quand même à mieux se connaître et donc à avoir confiance les uns dans les autres, comme on peut l'avoir à l'intérieur d'un couple, hein, d'ailleurs. C'est pas très différent de ce point de vue-là.
Christophe ?
Les limites, en fait, on les rencontre, les limites des gens, on les rencontre en s'affrontant à ces limites. Comme on rencontre nos propres limites, en s'affrontant à nos limites. Et en fait, des fois, on demande trop à quelqu'un et on se rend compte que là, on a franchi une limite, qu'on a mal parlé, on a fait quelque chose qui était là, voilà, ok, il faut respecter cette zone-là. Et cette confiance, elle vient du respect des limites des autres. Et c'est-à-dire qu'on a tous nos propres casseroles ou ce que vous voulez. Mais à un moment, cette confiance, elle naît du fait qu'on sait que je sais où je peux aller avec l'autre personne, quoi. Ça prend beaucoup de temps et je pense qu'on est encore au début de ça, hein. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup d'énervement, on a encore beaucoup d'énervement entre nous parce qu'on ne se connaît pas encore assez bien, notamment quand l'altérité arrive aussi.
Mais ce n'est pas seulement bien se connaître. Dans ce que vous dites, c'est aussi apprendre à se maîtriser soi-même par rapport aux autres, pour arriver à vivre avec les autres.
Je pense qu'il faut arriver à se maîtriser soi-même, mais ça c'est sûr, dans un collectif, on a deux sphères, on a la sphère, enfin on a même plusieurs en fonction des histoires des gens, mais on a notre sphère personnelle, la sphère familiale et la sphère collective. Et donc à chaque sphère, il y a des contraintes différentes et c'est cet équilibre-là aussi qui est difficile des fois, mais qui ici se passe très bien. Parce que je pense qu'on est d'accord pour être hétérogène.
Vous passez beaucoup de temps ici, sur place, les uns les autres ? Charlotte ?
Moi, je voulais revenir à comment on a appris à se connaître les uns les autres. En fait, moi, je suis arrivée ici avec mon compagnon Christophe et on avait un fantasme de construire notre maison en paille. Et donc, on s'est lancé en y connaissant assez peu, finalement, en bâtiment. Et j'ai vu au fur et à mesure de cette aventure qu'on n'était pas que deux à se lancer dedans. C'est que finalement, on a emmené tout le collectif et qu'on a été soutenus énormément et que ça aurait été impossible seulement à deux de s'en sortir là-dedans, en plus en faisant des enfants. Et que vraiment, chaque personne du collectif nous a vraiment soutenus à sa façon. Il y en a, c'était des compétences techniques, il y en a, c'était du temps, il y en a, c'était même un soutien seulement moral. Et du coup, on a appris à se connaître aussi en s'affrontant en réel. Allez, on fait quelque chose de concret, on construit quelque chose. Donc là, enfin, je pense concrètement, profondément, on a appris à se connaître en se confrontant à notre fantasme et ensemble.
Et aussi dans la construction, c'est ça que vous dites. Et effectivement, il y a eu toute une phase où il y a eu énormément de construction ici. Alors peut-être que ça a servi, ça a aidé à cimenter quelque chose entre les uns et les autres. Nicole.
Oui, sûrement, ça a été la phase, on a construit les fondations, hein, si je puis dire, de notre groupe, et c'était très concret, puisqu'il fallait faire des maisons, il fallait faire des habitats individuels, puisqu'on a choisi d'habiter chacun dans des maisons ou des habitats différents, et c'était un peu symbolique, mais je pense que ces fondations, ça a aussi fondé le groupe. Et là, on a fêté les 10 ans l'année dernière. Et moi, j'ai vraiment mesuré à ce moment-là qu'il y avait une confiance entre nous qui était vraiment forte. Et je pense qu'elle est liée au désir qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de vivre en groupe, qui est un objectif qui bouge, mais qui est quand même, à la fin, on est prêt à accepter peut-être des moments un peu plus tendus. Mais comme disait Christophe, bon, ça nous apprend des choses sur nous-mêmes et sur l'autre, bien sûr. Et pendant cette fête, on a eu des moments, bon, c'était une fête un peu ambitieuse puisque c'est sur plusieurs jours, on a reçu énormément de gens, on leur a proposé pas mal de choses, les repas tout en commun. Enfin, moi, j'ai ressenti qu'on pouvait vraiment compter les uns sur les autres. C'est-à-dire que il pouvait se passer un problème quelconque et voilà, on était soudés, on avait vraiment un objectif commun qui représentait la vie de notre groupe, en fait, à présenter aux gens qui venaient nous voir. Et ça, c'était un moment très, très fort parce que ça nous a, enfin, moi, ça m'a fait toucher du doigt cette confiance que nous avons entre nous, qui est une confiance qui peut bien sûr se modifier au fil du temps, mais qui est fondamentale parce que ça, on vérifie au jour le jour, finalement, qu'on est bien dans cette idée de projet, d'objectif commun et on a envie que ça marche. Et je pense que c'est ça le ciment du groupe.
Il me semble qu'il y a autre chose qui ressort des conversations que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Il y a la confiance que vous avez évoquée à l'instant, mais il y a également la circulation, l'échange. Je pense par exemple à Igor et Benoît. Igor, quand vous êtes arrivé ici, vous étiez menuisier, charpentier, et vous aviez comme rêve, je me souviens à l'époque, de devenir feuillardier. Je vous avais demandé ce que c'était. Feuillardier, c'est celui qui construit les cercles autour des barriques. Je savais même pas que c'était un métier. Et finalement, vous n'avez pas fait ça du tout. Mais vous vous êtes retrouvé avec l'envie de construire une roulotte. Et Benoît avait la même envie. Et vous dites que, en fait, vous avez énormément échangé là-dessus.
Bah ouais, c'était le projet d'habitat, comme disait Nicole. Enfin voilà, c'était hyper important, c'était d'avoir chacun son habitat. Et là, du coup, en plus, c'est un habitat un peu atypique. Benoît avait cette envie-là, et ça m'a motivé, j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai voulu faire la même chose. Et du coup, au fur et à mesure où moi je construisais, bah, on échangeait, parce qu'on voulait faire la même chose. Donc c'est plein d'échanges.
Ça veut dire qu'on s'enseigne mutuellement aussi?
Ouais, voilà. Parce que par exemple, quand on est la tête dans le guidon, bah, on se rend pas compte pour n'importe quoi. On se rend pas compte de ce qu'on fait. Puis du coup, d'avoir un regard extérieur, quelqu'un qui vient, qui est intéressé par ce qu'on fait, et qui a un regard extérieur, quoi, qui te dit que ça soit même pour les autres personnes sur les maisons. Hein. Je sais que moi, pour Charlotte et Christophe, en plus je suis du métier, bah, quand je venais les voir le soir et qu'ils étaient encore sur leur chantier, j'y allais et des fois je leur disais « Ah bah tiens, bah, pourquoi vous faites ça comme ça? Vous pourriez faire ça comme ça ?» Enfin, pour eux, c'est intéressant, quoi, du coup, d'échanger. Et moi, quand j'ai un problème d'ordinateur, je suis content de trouver Christophe, par exemple, qui peut me dépanner. Enfin voilà, c'est ça, enfin tous les jours, quoi.
Mais Christophe, quand on était passé, vous parliez de cette maison que vous alliez construire, une maison en paille, mais il s'agissait à l'époque, pour vous, de mettre la main à la pâte, mais c'était des artisans qui devaient s'en occuper.
Au début, en fait, on a cherché quelqu'un qui nous accompagne à l'autoconstruction, mais quelqu'un qui soit vraiment là et qui nous accompagne presque un peu comme une maman accompagne son enfant sur le chemin de la vie, quoi. Donc on avait besoin d'être accompagné, on se sentait pas du tout capable, Charlotte et moi, de construire une maison, même en paille, même en tout ce qu'on voulait. Ben voilà, c'était genre le défi monter l'Everest, quoi. Et donc on a dit on va demander de l'accompagnement. Et on a côtoyé des professionnels, et notamment une, et on a été tellement déçus par la prestation, par la qualité des échanges, par la qualité des renseignements, par la qualité des informations, par la précision des choses qu'elle nous donnait, qu'à un moment, on a dit, bon, on va continuer sans elle.
Là, vous ne parlez pas de quelqu'un du groupe
Non, quelqu'un de l'extérieur, une professionnelle qui était payée pour ça, qui avait une facture en bonne et due forme. Et quand on a dit, ok, on abandonne l'accompagnement, on se lance seul, on savait qu'on n'était pas seul. Et en fait, on aurait été tout seul dans une petite maison à la campagne. Et ben là, on aurait eu des bouts de bois dressés, vides. On aurait paniqué. Là, on n'a pas paniqué. Bon, un peu quand même. Bon, avouons-le, mais pas longtemps. Parce qu'on était entouré. On avait cette chance, cette qualité d'être dans un groupe avec des compétences. Enfin, Klaus, Igor, Benoît, Alain, tout le monde. Nicole pour nous aider pour l'accompagnement des enfants. Enfin, tout le monde était là. Et c'était énorme. Et en fait, on a pu dire non. Ces professionnels qui nous ont déçus parce qu'on était dans un groupe. Et cette maison, en fait, elle est certes la nôtre. Certes, on a donné beaucoup d'énergie et de sueur, mais c'est aussi la maison du groupe. C'est évident. Et de sans autre personne. Parce que ce groupe a la capacité d'accueillir des gens. Donc, on a pu faire venir des amis, des woofers, des tout ce que vous voulez du monde entier qui ont donné une heure, une semaine, un mois de travail. Comme ça, contre-échange de la vie, quoi. Et c'est ça. Et cette maison, elle est tout ça. Et c'est pour ça qu'elle est, pour moi, vraiment importante. C'est que c'est un projet énorme de compréhension du fait qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on peut avoir de la formation de qualité, on peut prendre conscience et connaissance de plein de choses qui nous échappent a priori. Voilà. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Il y a plein de choses qui nous paraissent impossibles. Et en fait, qu'on est bien entouré, ça devient beaucoup plus facile. C'est pas non plus genre youp là là, hein. Faut pas exagérer, hein. On a eu des difficultés, on a rencontré des moments durs dans notre couple par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées, certes. Mais voilà, c'est important cet échange-là, cette qualité d'échange, cette qualité de solidarité, cette qualité de confiance. C'est énorme.
Après, une autre question que je me suis posée par rapport à cette inscription d'un éco-hameau, d'une décision de vie collective dans le temps. C'est aussi l'inscription dans l'espace. Comment est-ce que on arrive à la fois à être dans sa propre identité? Chaque maison, il me semble-t-il, reflète vraiment quelque chose de ceux qui y habitent. Et en même temps, comment est-ce que ces maisons, qui sont relativement différentes les unes des autres, s'inscrivent dans un espace qui est l'espace collectif? Christophe disait à l'instant, cette maison, c'est aussi celle du groupe. Et il me semble que, de fait, on retrouve des traces de vous, des uns et des autres, pas seulement dans ce que vous avez construit pour vous-même, mais aussi plus largement, dans l'espace collectif. Il y a évidemment la maison commune qui a été construite et qui accueille les uns et les autres, mais je pense par exemple, Klaus, à ces barrières que j'ai remarquées, parce qu'elles sont vraiment très jolies, des barrières en bois. On m'a dit que c'est vous qui les aviez faites, donc vous n'avez pas construit que votre maison.
Non, j'ai construit aussi beaucoup pour les animaux, parce que je m'occupe des animaux qui peuvent pâturer sur nos prairies, puisqu'il y a quand même une bonne dizaine d'hectares disponible comme pour ça, pour ces animaux-là, c'est des brebis, et un cheval et une ânesse. Et du coup, il fallait aussi refaire les clôtures, surtout les limites de la propriété avec les autres propriétaires autour. Et du coup, c'est quand même tentant toujours aussi de mettre une petite note esthétique pour les portails et aussi qu'il soit un peu plus fonctionnel que juste avec attaché avec des ficelles et etc. Bon, après évidemment, oui, il y a aussi d'autres bâtiments comme une bergerie qui était avant juste un abri construit avec des palettes et des quelques poteaux et couvert de plastique noir. Alors c'est maintenant une belle bergerie, voilà. C'est
tout en bois.
C'était mon but, de toute façon, en arrivant dans ce lieu, ce collectif, au moins de réaliser quelque chose un peu congruent pour les animaux dont je m'occupe. Voilà, aussi, ça fait... Après, il y a aussi d'autres parties de bâtiments, comme la grange, où tout le monde a participé à des travaux d'aménagement, de récupérer, d'améliorer ou embellir cette ancienne grange qui date de l'avant-dernier siècle, déjà. Voilà.
Christophe.
Ça te permet, en fait, de faire une bergerie, de perdurer au-delà de ta propre activité, éventuellement. Ça inscrit dans l'espace et dans le temps ton activité, même si toi, tu vas peut-être abandonner ces brebis, non ?
Bien sûr, je suis à deux doigts de la retraite avec 65 ans. Bon, c'est sûr qu'on a construit maintenant cette nouvelle bergerie en dur, assez dur. C'est une construction ossature bois, couvert avec un toit qui tient debout, qui tient plusieurs décennies peut-être. Voilà, alors c'est aussi pour une autre génération qui va suivre cette activité avec les animaux de Busset.
Voilà une autre question importante, celle du mélange de générations. Ici, c'était un des points sur lesquels vous insistiez beaucoup, les uns et les autres, l'hétérogénéité, le fait qu'il y avait tous les âges. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Alain, vous levez le doigt, c'est vous qui allez reprendre les brebis de Klaus?
Non. Non, Klaus est un petit jeune par rapport à moi, j'ai 10 ans de plus que lui. Donc, mais c'est vrai que la variété générationnelle, c'était un des objectifs qu'on a eu assez vite. Donc au départ, on l'a réalisé en créant simplement un studio attenant à la maison que l'on avait fait construire. Mais en fait, très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une demande forte de jeunes qui voulaient venir s'installer. Le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc le problème était de trouver une solution à ça. Et la solution trouvée spontanément, en fait, a été l'habitat léger, quoi. C'est-à-dire que Benoît a inauguré la chose en construisant donc sa cabane. Et puis par la suite, donc Igor a construit sa roulotte. Et ensuite, Lisa, la dernière venue, donc, a installé sa yourte. Et bientôt, Benoît, donc, qui ne se contente plus de sa roulotte, donc, de sa cabane, pardon, est en train de nous construire construire une magnifique roulotte qui viendra s'installer à côté de celle d'Igor, on l'espère.
Mais tout ça ne nous dit pas ce que vont devenir les brebis de Klaus, et plus largement et plus généralement, ça ne nous dit pas comment ça se vit, ce mélange des générations, dans la durée.
Pour ce qui est des brebis de Klaus, c'est un problème qui se posera un jour, et ce jour-là, nous y trouverons une solution.
Alors, j'espère pour vous que vous y avez réfléchi, parce qu'apparemment, c'est assez bientôt.
Bientôt. Non, mais c'est bien sûr mes activités professionnelles qui ont aussi l'attente de moutons encore dans la région. Je vais certainement arrêter dans un an ou deux. Mais après, je peux m'occuper encore de 30, 20, 30 brebis qui sont notre cheptel local là, pendant quelques années. Quoi. C'est certainement... quelqu'un de plus jeune qui va venir s'installer, va s'intéresser aussi peut-être à l'élevage des animaux. Quoi.
Christophe ?
Sur le générationnel, je me sens un peu concerné puisque Charlotte et moi, nous avons deux enfants. Donc Bérénice qui a 8 mois et Pierre Vaux qui a 4 ans et demi. Eux, est-ce qu'ils vont rester à Busset ? Dans quelle mesure ça va s'égrener ou pas ? C'est impossible à dire. En fait, c'est magique actuellement parce que je pense que nos enfants bénéficient énormément du fait qu'ils ont d'autres papis et mamies ici, quelque part. Mais je peux pas du tout prévoir une évolution à 10 ans, à 15 ans. Je pense que chaque année qui passe peut tout remettre en cause. Enfin, c'est extrêmement... je pense que c'est vain de se projeter quelque part. On s'incruste dans le réel, on s'enracine ici, mais on se projette pas au-delà de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que faut pas fantasmer sur des reprises, sur un après Klaus entre guillemets, hein, parce qu'on parlait des brebis, hein, bien entendu. C'est-à-dire si c'est pas des brebis et des chèvres, pourquoi pas. Si c'est pas des chèvres, mais si c'est une pépinière d'arbres, le terrain il est modulable, les maisons sont modulables. Ici c'est modulable. On peut évoluer dans une quadrature qui ne sera pas celle qu'on avait prévue.
Charlotte.
Juste pour rebondir sur l'intergénérationnel, c'est vrai que ce lieu, il y a plein de potentiel. Et le fait que ce soit intergénérationnel, ça apporte une diversité de points de vue. On va dire que les plus âgés, entre guillemets, ils vont vouloir être plus rapides et ils auront peut-être les capacités d'investir. Donc, on va être plus pressés de réaliser leurs rêves parce qu'ils en ont les moyens et que c'est maintenant ou jamais. Et peut-être les jeunes, ils vont avoir un point de vue différent en se disant peut-être dans 10 ans, je ferai ça, dans 20 ans... qu'est-ce qui va se passer ? Et du coup, ça amène des débats qui finalement sont intéressants et ça nous force à prendre des décisions ou à ne pas les prendre. Et parfois, on peut dire, oui, ce lieu, il a changé comme ci ou comme ça, parce qu'à ce moment-là, il y avait telle personne qui avait la motivation de rénover la grange, parce qu'il avait maintenant envie de le faire et que c'était le moment, quoi. Donc, en fait, finalement, tout n'est pas prévu d'avance. Tout se passe parce qu'il y a des gens qui ont envie de le faire à ce moment-là. C'est l'intergénérationnel et la différence de moyens des uns et des autres qui font le Busset de maintenant, qui sera peut-être différent de dans 10 ans.
Oui, moi, je ne vous ai pas demandé comment serait Busset dans 10 ans ou 20 ans. La question, ce n'était pas qu'est-ce que vos enfants vont faire. Heureusement que vous ne pouvez pas répondre à cette question-là. Ma question, c'est plus comment est-ce que ce frottement entre générations se passe. Et Charlotte répond un peu en disant il y a des différences de temporalité, il y a des différences de rythme, il y a... Donc ça, à vivre, comment est-ce que ça se passe ? Et dans les échanges qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a vraiment réciprocité ? Est-ce que ça peut être difficile ? Alain ?
Il y a un phénomène nouveau en fait qui se passe, c'est qu'il y a un groupe qui est constitué, qui est là, mais de plus en plus, on a affaire donc à des gens qui vont venir, qui souvent sont jeunes, qui vont venir, qui vont passer quelques temps ici parce que ça correspond à une phase de leur existence où ils ont besoin de ça, sans qu'on sache d'ailleurs exactement ce qu'ils viennent forcément chercher, et qui repartiront après. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à rester pendant même 10 ans ici. Ils pourront peut-être venir simplement passer 6 mois, 1 an. Ça peut être une phase importante dans leur vie et... on a des exemples multiples actuellement de ce genre de présence qui vient à la fois enrichir le groupe, mais qui pose des problèmes différents.
Quel type de problème ?
Le problème qu'il faut que par ailleurs, ce que l'on peut apporter à ces gens qui viennent, il faut qu'ils soient portés par des gens qui sont là relativement en permanence. Il y a à la fois cette idée qu'il doit y avoir un groupe suffisamment stable, costaud et tout, qui peut donc accepter donc ces personnes, leur permettre de vivre l'expérience qu'elles ont envie de vivre pendant une durée qui n'est pas forcément très longue, quoi. Et puis après, bah, ils repartent vers de nouvelles aventures. Voilà, donc ça, c'est un phénomène que l'on rencontre de plus en plus actuellement.
Ça, les uns et les autres, les plus jeunes, le fait de voir des gens passer, ne pas s'installer, repartir, et donc à chaque fois renouer des relations et puis les accepter de les laisser se dénouer. Christophe ?
Ben, ça dépend vraiment du temps. Si c'est des gens qui succèdent tous les deux minutes, c'est hyper épuisant. Après, si c'est des temporalités comme 6 mois, 1 an, 2 ans, là, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup parce que ça nous enrichit beaucoup et on sait que ces gens-là, ils sont là dans une véritable rencontre, comme j'avais dit au début, comme nous, dans la découverte qu'on avait vécue au début. Et cette phase-là, elle est quand même hyper excitante. Et donc, ils sont, eux, dans une excitation particulière qui participe à l'électricité du lieu, quoi. Et je pense que c'est...
Elle est contagieuse.
Elle est contagieuse. Joyeusement contagieuse. Et je pense que c'est important, cette petite électricité qui vient de temps en temps nous habiter. Sans ça, je pense qu'on tournerait en rond.
Je suis désolée, je voulais t'interrompre. On se débat beaucoup sur est-ce qu'il faut qu'on accueille les gens à la journée pour faire une petite visite comme ça. Ah, c'est le tourisme. Qu'est-ce que c'est un éco-hameau? Je viens voir une après-midi. Et les gens qui viennent à 6 mois, 1 an, 1 semaine. Enfin, on n'est vraiment pas d'accord au sein du groupe pour savoir comment on accueille les gens et comment on accueille les médias. Enfin, peut-être qu'il faut maintenant.
Vous parlez de moi là?
Bah oui, typiquement, on discute en réunion. Enfin, peut-être qu'on l'a pas dit avant, mais chaque 2 semaines, on fait une réunion tous ensemble et on discute de qui va venir en visite et quels sont les médias qui nous sollicitent, parce qu'il se trouve qu'on est souvent sollicités pour des courtes visites ou par des médias qui n'ont rien à voir avec l'écologie ou avec la vie collective. Et on se demande, est-ce qu'on doit accueillir un journaliste qui va venir comme ça, parachuté depuis Paris, qui connaît rien et qui va écrire n'importe quoi sur nous? Et vraiment, ça, on a des grands débats, parce que certains vont vouloir présenter quelque chose, donner une étincelle peut-être à quelqu'un qui est très loin, éloigné de ça, et d'autres qui vont dire, bah non, on va pas être le toiri de l'éco-village, quoi. C'est un débat qu'on a en ce moment, en fait. Voilà.
Nicole, juste, je voulais dire qu'il y a aussi une question d'équilibre. On est un groupe de permanents qui est quand même pas très nombreux. Et c'est vrai que parfois, on se sent un petit peu envahi s'il y a trop de gens qui viennent voir. Alors bon, Alain parlait quand même des gens qui restent longtemps, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et là, c'est beaucoup plus riche, c'est certain, comme disait Christophe aussi. Mais je pense que si, notre groupe étant encore pas très, très nombreux, parce qu'en permanent, vraiment en permanent, on est une dizaine. Hein.
Nous sommes 16 en permanent, enfin, avec les enfants. Et...
Oui, mais tu vois, là, il y a déjà des locataires qui partent, donc bon...
Ça change, fluctue tout le temps.
Et c'est l'équilibre qui compte, voilà, c'est ça aussi. S'il y avait trop de gens de l'extérieur, je pense que ça nous poserait vraiment problème. Là, actuellement, on arrive à gérer ça bien et c'est très enrichissant.
Igor ?
Quand on parlait des visites, là, ce qu'expliquait Charlotte, le débat, c'est qu'on n'a pas tous le même temps disponible non plus pour accueillir les gens et tout. Et ce qu'on parlait de l'intergénérationnel, par exemple, il y a des gens qui ont plus de temps du fait qui n'ont plus d'activité professionnelle, plus d'enfants à charge, enfin voilà, et qui ont la volonté d'accueillir des gens à la journée. Je prends Alain, Nicole, par exemple, sont présents sur le lieu et ont le temps d'accueillir ces gens-là.
Oui, parce que là, ce à quoi vous faites allusion, c'est aussi quelque chose d'autre qui est une des caractéristiques importantes de ce lieu et dont on se demande comment elle résiste à l'épreuve du temps, c'est la très grande hétérogénéité. On a parlé des différences d'âge, et en effet, il y a trois générations qui sont présentes ici sur le lieu. Mais il y a aussi une très grande hétérogénéité des conditions de vie. Il y a ceux qui travaillent en effet à l'extérieur, ceux qui ont un petit boulot, ceux qui vivent sur place ou qui ont développé leur activité sur place. Enfin, c'est vraiment avec des salaires très différents. Et je me souviens que c'était une des données de départ, mais que c'était aussi une des données sur lesquelles il fallait inventer. C'était le mot que vous aviez employé à l'époque. Il faut inventer des formes qui permettent de rassembler des gens qui ont des conditions de vie si différentes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette hétérogénéité, pour les uns et les autres, et vous n'êtes pas obligés d'être tous positifs, hein, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous apporte ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui vous pèse, qui rend les choses plus difficiles, plus intéressantes? Samuel.
Moi, je dirais qu'il me semble que cette hétérogénéité, enfin, ouais, de la différence de génération, elle est indispensable pour que le groupe soit pérenne, entre guillemets. Et puis, pour paraphraser Igor, c'est le fait que cette différence de génération permet de recevoir à court terme des personnes en fonction du rythme de chacun. Et puis après, à long terme, bah, ça, c'est le fait que l'ensemble du groupe soit en phase, bah, d'être ensemble dans ces différentes générations qui permet de pouvoir recevoir. Après, le fait que ce soit difficile, oui, mais je pense que ça reste indispensable.
Vous, il y a 5 ans, vous disiez qu'au départ, vous aviez pensé que vous ne pourriez pas vous installer ici, parce que pour vous, le groupe, c'était quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, vous en êtes à dire qu'il est indispensable.
Oui, mais ça, c'est le principe du fait que pour d'autres lieux aussi, c'est pas pour Bussey que c'est indispensable, c'est que pour, il me semble, que pour la plupart des lieux qui voudraient avoir une expérience à long terme sur une seule génération, oui, ça risque d'être difficile.
C'est
et
sûr.
En l'occurrence, bon, moi, j'ai acheté une maison en dehors du lieu, donc je vais prendre ma petite autonomie à moi, parce que le principe, c'est ça, c'est d'être autonome. Et en l'occurrence, là, ici, de le faire ensemble, d'être ensemble. C'est complètement différent, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, oui, c'est sûr. Difficile, je dis, enfin, oui, au quotidien, c'est sûr que c'est pas forcément toujours la fête, toujours you-you, enfin, tout, voilà. Mais dans l'ensemble, faut faire des efforts, ouais, c'est sûr.
Christophe, vous voulez intervenir aussi?
Bah, sur le niveau social, je pense qu'en fait, on le voit plus, presque. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que quand on se voit, quand on prend des décisions, quand on discute, on voit plus cette différence sociale. La différence générationnelle, on la voit toujours, de fait, parce que elle implique des rythmes qui a été évoqué à plusieurs reprises, ça c'est évident. Franchement, sur les salaires, et chacun met ce qu'il veut dans la SCI, il n'y a pas de débat, en fait. T'as 30 euros à mettre, tu fais ce que tu veux, enfin, c'est, donc on fait avec la somme qu'on a, et la somme, elle est la somme qu'on a récoltée. Et donc ça, je pense que ça, pour moi, ça s'est aboli quelque part. Elle s'est estompée, cette différence. Pas la différence générationnelle, mais la différence sociale, enfin socio-professionnelle, je pense qu'elle s'est estompée.
Charlotte ?
Aussi, ce que j'ai découvert ici, c'est que c'était aussi dur de donner que de recevoir. Parce que finalement, on a l'impression, ouais, c'est ceux qui ont plus d'argent, ils vont avoir du mal à lâcher leurs sous, mais c'est pas du tout ce qui se passe concrètement. C'est aussi dur, parfois, de se faire payer quelque chose. Quelqu'un qui dit, allez, j'ai de l'argent, je vais investir là-dedans. Parfois, souvent, c'est le groupe qui freine et qui dit, bah non, est-ce qu'il faut vraiment investir l'argent? Est-ce que cet argent doit être mis dans Bussey? Est-ce que c'est pas plutôt un mal pour Bussey d'avoir de l'argent qui arrive comme ça pour faire, je sais pas quel travail, n'importe quoi? Et c'est vraiment que c'est des débats internes. Est-ce que c'est l'argent dont on a besoin ou est-ce que c'est le groupe? Et qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Enfin, c'est pas si évident que ça de dire donner ou recevoir les plus riches, les plus pauvres. C'est des débats qui traversent nos discussions, quoi.
C'est vrai qu'on a le sentiment, là je repense à vos habitats, aux uns et aux autres, on a le sentiment que ces habitats correspondent à des désirs et non pas à des besoins. Oui, enfin, dit comme ça, ça fait un peu étrange, mais effectivement, on n'a pas l'impression que les riches se sont construits des grandes maisons et les pauvres ont des petites maisons. On a l'impression que chacun a construit ce qu'il avait envie de se construire, en fait. Alain ?
Oui, c'est vrai que Mais très vite, on a buté sur une réalité sociologique importante, c'est-à-dire que c'est les vieux qui ont l'argent et les jeunes qui ont pas un rond. Donc, du coup, il y a un quartier bourgeois qui s'est construit pour les vieux et les habitats légers pour les jeunes.
Vous dites ça pour donner l'impression que c'est une ville de 70 000 habitants.
Non, mais c'est recréer un microcosme très représentatif de la société.
Christophe.
Je me porte en faux par rapport à ça, parce que je pense que concrètement, notre famille a plus d'aisance que certains qui ont une maison dite bourgeoise ici. Voilà, mon copain de gauche, Klaus, voilà, je pense qu'il a pas forcément, enfin, je sais pas, on n'a pas comparé nos budgets, mais en tout cas, c'est aussi une représentation qu'on a de ce que c'est qu'une maison, de ce que c'est qu'un habitat, et ça, c'est plus du générationnel que du social. Je pense que la différence, elle est plus à ce niveau-là qu'au niveau vraiment financier, quoi. Donc je me porte un petit peu en faux par rapport
à... Le désir, comme tu disais.
Et le désir.
Je pense que le désir, oui, il est vraiment réalisé dans le type d'habitat, parce que bon, je pense qu'on construit une maison en dur, avec un certain confort et tout, quand on est plus vieux. Et puis, quand on est plus jeune, on a envie d'inventer des formules différentes, les cabanes, les roulottes. Voilà, c'est un vrai désir, ça. C'est plus qu'une question de moyens, je pense, effectivement.
Oui, mais nous, Charlotte et moi, on a une maison avec tout le confort moderne.
Il y a aussi le désir paysager, on va dire. Peut-être certains vont être plus sensibles à un esthétique épuré, d'autres plus bordélique. Est-ce que c'est générationnel ou question d'argent ou quoi? Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts et les mêmes désirs de l'environnement. Parce qu'on a un espace vert, un espace de jeu immense, mais chacun a son petit rêve et parfois ça s'affronte. Alors on trouve des compromis et je pense que chacun met un peu de eau dans son vin, de vin dans sa soupe. C'est vrai qu'on n'est pas du tout forcément sensible aux mêmes choses et on n'a pas les mêmes désirs.
Mais vous aviez tous au départ ce désir ou ce rêve d'une vie plus écologique, d'une vie qui était portée par un projet à la fois politique, environnemental, et ça. Comment est-ce que ça se conjugue avec autant de différences, Igor?
Je sais pas, après on l'applique pas tous. Par exemple, sur moi, j'ai un travail à l'extérieur, mais mes convictions, je les applique aussi dans mon travail. Je bosse dans le bâtiment, j'essaye d'utiliser des matériaux pas crado. Enfin, je l'applique aussi dans le reste de ma vie. Après, j'ai bien sûr des incohérences, hein. J'ai une voiture, enfin voilà, j'ai pris l'avion, enfin, plein de trucs. On n'est pas tous à cheval sur la même chose.
On dirait une séance de confession, là, tout à coup.
Non, mais on n'est pas tous à cheval sur la même chose. Il y en a qui, parmi nous, qui vont être à cheval sur la nourriture. Il va falloir que ça soit produit localement, que ça soit bio. Il y en a d'autres qui vont aller faire les courses dans un supermarché. Après, il y en a d'autres qui vont être à cheval sur les matériaux de construction. Il faut que ça vienne du local.
Mais oui, mais comment est-ce qu'on conjugue tout ça, justement?
Par la tolérance. Puis accepter les différences, c'est tout, quoi. Enfin, une société, elle est faite comme ça aussi. On a quand même quelque chose de commun qui nous réunit, et ça a l'air de à peu près fonctionner quand même depuis le temps, et même au quotidien, et on accepte quand même certaines différences. Après, ce que disait Christophe, c'est que ça nous bouscule aussi.
Ouais, voilà. certainement, on a tous fait des apprentissages ici aussi, même si on avait chacun son idée à participer à ce projet Ecohabitat. Mais on a évolué pendant les 10 ans ou 5 ans ou le temps qu'on est passé ici déjà. On a appris par les uns et les autres. Du coup, c'est la tolérance qui est importante dans ces questions-là. Je pense que aussi les plus durs sur l'écologie ou sur la consommation bio en alimentation, bon, s'ils sont pas intégristes non plus, il y a personne qui est intégriste, alors bon, il faut un peu.
Christophe, vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est le mot de tolérance qui m'énerve, en fait, pour être clair. Non, on se tolère pas, on est sur le même chemin. On est sur le même chemin et on n'est pas forcément à la même étape du chemin, parce que le chemin, il est très complexe et c'est un labyrinthe. On ne sait pas où vraiment est l'issue, mais on se tolère pas, on s'apprécie, on est ensemble sur un chemin. Moi, l'expression tolérance, des fois, elle me chagrine un peu, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait la moue, donc vous avez repris cette moue. Voilà. Mais en fait, je pense qu'on est vraiment tous sur un chemin. Et on pense qu'on a un objectif, c'est d'essayer de maîtriser son impact énergétique, son impact environnemental, son impact social, sa décroissance, chacun à sa façon. Voilà, on sait qu'on peut se faire confiance sur l'objectif politique qu'on a. Mais on a tous un objectif politique différent, je veux dire, graduellement. Moi, je serais peut-être plus accentué au début. Au début, quand je suis arrivé ici, c'était peut-être sur l'aspect social. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était le collectif, plus que l'écologie d'un bâti. La laine de bois, c'est très bien, mais elle est produite comment ? Les matériaux écologiques, ils sont produits où ? Comment ? À quel prix ? Qu'est-ce que ça implique ? Ça, ça m'intéresse autant. Donc, c'est ça, et on en discute. C'est pour ça que pour moi, la paille, on a fait une maison en partie en paille, m'intéressait énormément, parce que c'est un matériau écologique et socialement intéressant, et localement intéressant, etc. Mais on ne peut pas faire que ça. Donc, il y a des exceptions, et puis il faut prendre les exceptions. Enfin, il y a du polystyrène récupéré ici, c'est très intéressant, parce que voilà, c'est un matériau complètement crado écologiquement, mais hyper intéressant, du part que c'est de la récupération, que ça ne part pas en décharge. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de détourner un déchet et pour en faire un bien et le valoriser, je trouve ça intéressant. C'est pas écolo, quelque part. Voilà. Donc, c'est quoi l'écologie ? Donc, c'est pour ça on ne se tolère pas. Non, on est ensemble sur un chemin.
Et vous vous affrontez parfois, Samuel ?
Oui, il y a forcément des moments où ça s'accroche, ouais, forcément. On n'a pas forcément tous les mêmes idées, on n'a pas tous les mêmes convictions, on n'a pas tous les mêmes expériences aussi, dans le domaine soit de l'alternatif, soit de l'écologie, soit bah, des idées qu'on développe à l'intérieur de soi, et puis de l'échange qu'on peut avoir avec les autres au quotidien. Et donc, le terme d'affrontement est peut-être un petit peu fort, mais tout du moins au niveau, entre guillemets, intellectuel, ou dans l'échange de paroles, et puis dans l'échange au quotidien, le terme d'affrontement est peut-être un peu excessif.
Alain ?
Je reprendrai quand même largement ce qu'a dit Christophe. D'une part parce que l'écologie pure, ça n'existe pas, et qu'en réalité, on est toujours en train de faire un compromis entre des exigences que l'on pense être souhaitables d'un point de vue écologique et des réalités qui peuvent être tout simplement financières ou tout ça. Donc on est constamment en train de faire des compromis, et un compromis qu'on espère être le plus écologique possible. Ceci dit, on n'est pas sûr que les solutions qu'on préconise aujourd'hui comme étant écologiques le seront encore demain. C'est-à-dire qu'il faut être modeste de ce point de vue-là. Et d'autre part, donc, l'argument qu'a donné Christophe, alors là, je le suis tout à fait, c'est qu'on n'est pas tous sur le même chemin. On est venu ici.
Ah, si, il a dit que.
Oui, bon. Au même endroit. On n'est pas au même endroit sur le chemin, exactement. Non, mais excuse-moi de ne pas pouvoir reprendre exactement ce que tu as dit, parce que j'étais vraiment d'accord. Et ce qui n'est pas souvent le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, disons. Et c'est vrai que, on est venu ici pour, à la base, pour des raisons complètement différentes. Nicole avait monté donc une coopérative d'achat de produits bio pour la nourriture. Je suivais ce qu'elle faisait, mais bon, voilà, pas plus. Par contre, moi, j'étais très branché sur les problèmes d'énergie. D'autres vont être concernés par la construction. Donc, on n'est pas au même endroit sur le chemin. Simplement, comme il l'a très bien dit aussi, donc je renforce. Hein. Ce qui est important, c'est qu'on ait confiance que chacun va effectivement vers ce qu'il pense être le mieux dans ce domaine-là, quoi. Et voilà.
Charlotte ?
Du coup, c'est intéressant parce que parfois, ça donne des non-décisions aussi, le fait d'être pas sur le même chemin. Par exemple, la maison commune, ça catalyse toutes les envies des uns et des autres et tous les chemins et les graduations différentes. Du coup, la maison commune, paradoxalement, elle reste peu changée depuis le début parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais en même temps, à chaque fois, on revient aux discussions et on essaye d'avancer un tout petit peu. Mais en fait, on accepte aussi que ça avance peu et lentement. Et le sol de la maison commune, il faudra peut-être 10 ans, 15 ans pour que ça aille à tout le monde, mais un jour, ça ira. Pour l'instant, on en discute seulement, et la discussion nous fait avancer.
Finalement, ce que vous nous faites remarquer, Charlotte, c'est que ce sont les espaces communs qui sont les plus difficiles à investir. Vous avez parlé tout à l'heure des espaces à l'extérieur, les espaces de jardin sur lesquels il y a des désirs très différents, et puis la maison commune aussi.
Oui, parce qu'on s'est laissé une quand même une grande dose de liberté à chacun pour les espaces privatifs, hein, particuliers des uns et des autres. Et je pense qu'on est tous dans la même démarche de liberté de mode de vie des uns et des autres. Par contre, sur les espaces communs, comme on les utilise tous, bah forcément, on a tous une revendication particulière sur un mode de vie. Et forcément, ça prend plus de temps à ce que chacun soit imposer sa vision, soit en discuter avec les autres. Oui, ça catalyse plus de choses, l'espace commun, c'est sûr.
Et oui, comment partager du territoire, Christophe?
En fait, sur les espaces communs, quand on n'est pas d'accord, ça stagne, c'est tout. La conséquence, elle est simple. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est que on ne progressera qu'au rythme de notre consensus et notre désir commun. Et ça, c'est génial. Ça montre que c'est long de se mettre d'accord. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une confrontation, hein. C'est juste une capacité de se réunir et d'avoir envisagé toutes les pistes possibles. Parce que des pistes pour cette maison commune, mais il y en a des milliers. Et donc, à un moment, c'est quoi la meilleure piste, la plus fine, la plus adaptée, la plus écolo, la moins chère, la plus intéressante, la plus locale, la plus sociale? Parce qu'en fait, voilà, chacun va ramener son chemin. Donc, chacun va ramener sa dimension. Donc, on est sur de la quadrature, mais c'est plus de la quadrature, c'est la quintrature, je sais pas comment on dit, mais c'est ça. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des espaces communs. On aurait que des maisons en habitat groupé côte à côte, mais on n'aurait pas tous ces débats. On n'aurait pas de débat. On cohabiterait, ça serait sympa, on partagerait plein de trucs. On pourrait partager des éléments sans que... Donc, par exemple, je pourrais mettre ma voiture en commun. C'est pas partir d'avoir une voiture commune. Ça n'a rien à voir. Donc, on pourrait mettre des choses en commun si c'est des choses personnelles qu'on se prête. Mais là, on a des choses qui sont complètement en commun. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Le reste, c'est bien parce que c'est chez nous, on est content, on a fait nos rêves, nos désirs, nos envies, nos besoins. Mais là, on expérimente le discours. Et après, ça va évoluer. Parce que je pense que Busset va continuer d'évoluer. Voilà, on pourra refaire une émission dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, quand on n'y sera plus. Et peut-être qu'à un moment, l'argent sera mis en commun. Par exemple, je sais pas, c'est quand même dans des collectifs, à un moment, on passe la phase d'une forme de mise en commun de l'argent. Là, on partage juste une petite cotisation de 30 euros par mois qu'on met en commun pour quelques aliments. On considère qu'on mange tous la même chose. Ce qui est une utopie, hein. On sait qu'on mange pas tous la même chose, mais on dit que sur les pâtes, le riz, un certain nombre d'ingrédients, on met en commun. Donc on a quand même déjà franchi une première étape de mise en commun de l'argent. Mais ça demande, pour moi, ça demanderait à aller plus loin, mais ça prendra le temps que ça prendra, parce que là, c'est encore plus que le sol de la maison commune. On est sur des discussions complexes, mais intéressantes.
Bah alors là, je comprends plus. Finalement, c'est en commun, c'est pas en commun. Vous payez ce que vous avez consommé ou vous partagez tout, Nicole?
Alors, il y a une partie qui est commune et une partie qu'on paye individuellement. En fait, on a estimé qu'on mangeait à peu près tous de la même chose, de la même façon, de la même quantité. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais l'un dans l'autre, ça va. Donc, on a, pour l'instant, on estime qu'en donnant 30 euros par mois par adulte, on remplit une caisse commune et on achète l'ensemble de la nourriture de base. Donc, le riz, les pâtes, l'huile, la lessive, enfin voilà, tous ces produits qu'on partage tous. Mais par ailleurs, on a aussi une épicerie où on peut racheter individuellement les produits parce qu'on ne les consomme vraiment pas tous de la même façon. Par exemple, Charlotte, elle adore le choc-épeautre et il y a qu'elle qui en mange, donc c'est elle qui rachète ça. Voilà, bon, donc c'est ça. Donc il y a une partie qui est vraiment mise en commun avec une caisse commune que tient Christophe. Et quand on fait une dépense particulière, c'est lui qui rembourse la personne qui a fait cette dépense sur les produits en commun. Voilà.
Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Christophe de mettre l'argent en commun?
Ah ben moi, ça m'intéresserait beaucoup. Je pense qu'on arrive à un moment là, bon, les habitats sont à peu près finis. Alors je voulais quand même dire un petit mot sur les parties communes, parce que c'est vrai que quand on n'arrive pas à se décider, ben ça stagne, effectivement, rien n'évolue, mais on ne désinvestit pas les lieux. Et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on a toujours du plaisir à venir dans la maison commune, à aller dans les jardins communs, même si on n'a pas tout à fait réalisé ce qu'on voulait, et ça cogite, et ça continue, et puis un jour, on va finir par trouver une solution ensemble. Et donc, si un jour, on se mettait à désinvestir les lieux communs, alors là, ce serait grave. Il faudrait se poser vraiment la question. Mais donc, moi, ce qui me plaît, c'est que même si on a un sol qui est vraiment pas terrible dans la maison commune, on y vient toujours avec grand plaisir et on l'oublie, en fait. Et
on s'en fiche,
finalement, et ça se passe très bien comme ça. Alors, quelquefois, quand il y a des visiteurs, oui, on se dit, oh, quand même, c'est pas terrible. Mais bon, entre nous, ça passe bien, quoi. Voilà. Alors l'argent. Alors voilà, je pense qu'on est on a fini un peu la phase habitation, construction, tout ce qui touche le bâtiment, tout ça. L'aspect social, ben ça c'est sans fin, hein. Ça va durer toujours, hein, en fonction des gens qui vivent des phases de leur vie différentes, des nouveaux qui arrivent, etc. Donc ça c'est toujours passionnant et enrichissant. Et c'est vrai que bon, certains dans le groupe aimeraient bien que maintenant on passe un petit peu à une étape suivante, avec un aspect peut-être plus politique pour le coup, avec des... Bon, on a mis une voiture en commun, on a un système d'épicerie partiellement commune, on a beaucoup d'outils en commun, on a beaucoup de choses, on fait beaucoup d'entraide, etc. Bon, alors, c'est vrai que l'argent, ça, c'est une question qui est en général assez délicate, hein, sur laquelle on bute souvent, parce que ce que disait Charlotte, c'est super intéressant. Recevoir, c'est aussi difficile que donner, parfois plus. Et c'est aussi frustrant quand on a un petit peu d'argent de dire bah, qu'est-ce que j'en fais de mon argent, moi j'aimerais bien le mettre dans le Busset, et puis les autres disent oh, bah, non, il faut mieux qu'on le fasse même si ça prend plus de temps, voilà. Alors ça c'est des discussions qui touchent des aspects très profonds de la personne, suivant ce qu'on a vécu avant, suivant nos éducations, suivant les désirs que l'on a, et c'est ce qui me paraît une étape maintenant passionnante et que j'aimerais bien qu'on puisse aborder dans les années qui viennent.
Voilà.
Oui, c'est une idée que j'ai dans la tête aussi depuis. L'idée, ce serait de dire, on met chacun 10% de nos revenus annuels, par exemple, dans la caisse commune, et ça servirait à alimenter tout ce dont on a besoin. Enfin, j'ai dit 10%, comme j'aurais dit 5 ou 50, voilà. Et c'est quelque chose que je fantasme, mais qui, c'est vrai, c'est pas, pour l'instant, n'est pas arrivé sur le... comme une demande forte de l'ensemble, quoi. Voilà.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et des liens vers l'éco-hameau de Busset. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chenepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Delphine Baudet, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.